Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Universitaire en action tous les dimanches matin, 9h, 10h, sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et également les lundis soirs sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Soccer Sport est le nom de l'émission. Donc, j'espère que vous allez bien. Wissam Bensa avec vous, micro pour la prochaine heure. Et cette semaine, on est de retour avec, notamment, une certaine analyse, certains résultats de la CONCACAF Nations League, la Ligue des Nations de la CONCACAF. La CONCACAF, c'est la région nord-américaine là, de soccer, donc Canada, États-Unis, Mexique et les Caraïbes. Et puis, bien sûr, là, les pays Guatemala, Panama et tous ces pays-là. Ça va jusqu'au sud du Panama, en fait, pour ce qui est des pays qui ne sont pas des îles. Et à part ça, on a toutes les îles, là, Cuba, Curaçao, Haïti, République dominicaine et ainsi de suite. On va parler de ça parce qu'il y avait un match la semaine dernière, le 21 novembre, du côté de Toronto, et j'y étais. Première accréditation à vie, en fait, c'est pas vrai, deuxième accréditation à vie pour l'équipe nationale canadienne, mais la première pour l'équipe nationale canadienne masculine, puisque la dernière fois, c'était féminine et je n'avais pas pu y aller puisque je devais commenter des matchs là, pour le cégep. Eh bien là, j'y étais cette fois-ci. On va parler de ça, se passait du côté de Toronto, au BMO Field, un stade très gros, très impressionnant. On va vous donner les résultats de ce match-là également. Est-ce que le Canada a bien fait contre la Jamaïque? Est-ce que la foule était présente? On a également des entrevues d'après-match pour vous. Hein? L'entraîneur de l'équipe nationale canadienne, Mauro Biello, qui vient de Montréal. Là, c'est un Québécois également et qui a entraîné d'ailleurs le CF Montréal, un joueur légendaire, de l'Impact à l'époque et qui jouait avec l'Impact, qui entraînait l'Impact parce que ça ne s'appelait pas le CF Montréal quand il était là-bas. On a une entrevue de lui d'après-match. Et puis, on a également une entrevue de l'entraîneur islandais de l'équipe nationale de Jamaïque. Ça, là, il n'y a pas beaucoup de sports où est-ce qu'on peut avoir un entraîneur islandais qui entraîne en Jamaïque. Donc, c'est vraiment nice. Moi, j'aime vraiment ça. Là. Il était très sympathique, d'ailleurs. Et puis, comme tout pays scandinave, là, on peut les nommer Finlande, Suède, Norvège, Islande. Je pense que le Danemark aussi est inclus là-dedans. La qualité de leur anglais, là, de ces pays scandinaves-là, elle est généralement excellente. Donc, la qualité est très bonne. Et puis, ça ne faisait pas exception pour l'entraîneur islandais de l'équipe nationale de Jamaïque. Également, un peu d'actualité universitaire sportive, puisque le monde du sport universitaire n'arrête pas. Cette émission, elle est pré-enregistrée, comme vous le savez. Donc, pour ce qui est des résultats de matchs qui se déroulent le samedi et le dimanche, mais je vous invite à utiliser le site de U-Sports pour aller les vérifier ou pour le Québec, le RSEQ. Donc voilà. Et également, on va parler un peu du Phoenix de Sherbrooke, puisqu'il y a des matchs. Puis la semaine prochaine, je serai d'ailleurs côté Sherbrooke, jeudi le 30 novembre, je serai à Sherbrooke pour aller couvrir le match du Phoenix de Sherbrooke. J'ai réussi à obtenir une petite accréditation médiatique, une des nombreuses. Donc, on remercie encore une fois le Phoenix de Sherbrooke et Soccer Canada pour ses accréditations dans les deux dernières semaines, en fait, dans les deux semaines qui nous entourent. Également, CFAC et CSM pour les opportunités de couvrir ces matchs-là. On vous rappelle la page de Instagram des émissions de radio, eh bien c'est Sport CSM, Sport avec un S, CSM, c'est le nom de la page Instagram. Ça inclut bien sûr CFAC, bien entendu. Donc on va commencer tout de suite l'émission avec les impressions et le résultat du match là, concernant Canada-Jamaïque. Eh bien, pour débuter, on va commencer par vous expliquer comment se passait ce tournoi-là de la CONCACAF Nations League. Là, on était rendu au quart de finale. Et qui dit quart de finale, en fait, c'est un match aller et un match retour. Donc, un déplacement du côté de la Jamaïque qui s'est fait le 18 novembre. Et après ça, il y avait le match retour côté Toronto le 21 novembre. L'équipe qui passe, bien sûr, c'est l'équipe qui, lors des deux confrontations, eh bien, gagne le résultat. Et puis, en cas d'égalité, eh bien, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur qui passe. Et si c'est complètement égal des deux côtés, eh bien, il y aurait eu prolongation. Il n'y a pas eu prolongation puisque à l'aller, le Canada l'a emporté 2-1 du côté de la Jamaïque à Kingston avec début de début de Stéphane Eustáquio qui joue du côté de FC Porto au Portugal et Jonathan David qui joue du côté de Lille en France. Et pour côté Jamaïque, c'était Shamar Nicholson qui avait marqué à la 56e minute. Rappelez-vous de ce nom-là, là, Shamar Nicholson, il joue son soccer à Clermont en France. Et donc, 2-1 victoire du Canada à Kingston en Jamaïque, là, sous les 30 degrés environ. Et la veille, le vendredi, en fait, ça devait se passer le vendredi. Finalement, ça s'est joué le samedi parce que le terrain était trop inondé, là, comme il y avait de la pluie toute la journée. Donc, un très bon résultat pour le Canada, là, côté Jamaïque. Gagner en Jamaïque, c'est jamais facile, et surtout avec la température qu'il faisait. Donc, pour les hommes de Mauro Biello, c'était un très bon résultat. Fait à noter là, que le joueur du CF Montréal, Samuel Piette, n'avait pas joué ce match-là. Lui qui joue beaucoup de matchs là, avec l'équipe nationale canadienne, en fait, qui est souvent sélectionné par l'équipe nationale canadienne, mais qui joue très souvent là, 0 minute. Je crois qu'à la Coupe du Monde, il n'avait pas joué une seule minute, même en tant que remplaçant là, pour le capitaine du CF Montréal. Donc, c'est dommage pour lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui peut apporter. Mais d'un autre côté, pour ce match-là, la plupart des joueurs jouent dans leur championnat respectif. Et comme Samuel Piette joue en MLS, eh bien, il n'avait pas joué depuis un petit bout. Et donc, pour jouer dans un match important comme ça, c'était peut-être une décision qui peut se comprendre de côté Mauro Biello, même si bien évidemment, là, comme on est supporter du CF Montréal, on aurait voulu voir Samuel Piette. Donc, 2-1 victoire du Canada à l'étranger en Jamaïque à Kingston. Là, le match retour, ça se passait le 21 novembre. Ça, c'était mardi dernier. De la semaine dernière à Toronto. La température pour ce match-là, il y avait eu de la pluie toute la journée, mais c'était de la pluie légère. Il ventait un peu. Montréal, il neigeait. À Toronto, il pleuvait. Donc, la température n'était pas l'idéal, mais par exemple, pour le Canada qui est habitué de jouer dans le froid, c'était quand même un petit avantage. Et le match a très bien commencé côté Canada avec début là, notamment de Alphonso Davies dès la 25e minute avec une passe de Richie Larea. Donc, le Canada rentre au vestiaire 1-0 à Toronto à domicile et il mène surtout la confrontation directe 3-1 au total avec en plus, ils ont marqué un but à l'extérieur. Donc, ça allait très bien pour le Canada. Ensuite de ça, eh bien, 2 de Shamar Nicholson à la 62e et à la 66e minute. Donc, il a marqué 3 là, dans les 2 matchs pour le joueur qui joue à Clermont. Joueur natif, bien sûr, là, de Kingston en Jamaïque. C'est important aussi de mentionner que beaucoup de joueurs de l'équipe nationale jamaïcaine, comme dans beaucoup de sélections, sont nés dans des pays autres que la Jamaïque. Beaucoup sont nés en Angleterre, là. C'est le cas notamment de Michael Antonio, qui est né en Angleterre, qui est un très bon attaquant là, côté West Ham. Il est né du côté de Wandsworth en Angleterre. Donc, beaucoup de joueurs sont nés en Angleterre, comme de Mary Gray, qui est né à Birmingham. Donc, le monde aujourd'hui étant ce qu'il est, bien les joueurs se déplacent. Beaucoup de gens immigrent dans d'autres pays et ces gens-là font des enfants qui ont souvent la double nationalité et qui se sentent, dans ce cas-ci, là, précisément jamaïcains et donc qui jouent avec l'équipe nationale de la Jamaïque. Et donc, 2 de Shamar Nicholson. Le premier, là, c'est sur une erreur de Stephen Eustáquio qui a dribblé un peu pas très loin de sa défense, pas très loin de la cage d'ailleurs de Borjan, le gardien de but canadien, le capitaine. Et puis, ça l'a fait en sorte eh bien, que la Jamaïque a pu contre-attaquer et but de Shamar Nicholson. Donc, c'était une erreur quand même très importante là, côté canadien. Ensuite de ça, eh bien, les 2 de Shamar Nicholson, comme j'ai dit, 62e, 66e minute, avec 1 à la 69e minute pour Ismaël Koné, qui fait 2-2. Et à ce moment-là, le Canada était qualifié. Et ensuite de ça, à la 77e minute, pénalty sifflé pour la Jamaïque, sur une main de Stephen Eustáquio dans la surface de réparation. C'était quand même un peu sévère. Et Bobby Reid marque et fait 3-2. Ensuite, Demarai Gray, carton rouge à la 84e minute et 9 minutes de temps additionnel. Le Canada a des chances. La Jamaïque défend avec toute son énergie. Les joueurs tombent au sol pour essayer de gagner du temps. L'arbitre ne bronche pas, il ne siffle pas. 2 changements dans les arrêts de jeu pour la Jamaïque. Bailey et Lee sortent pour Gray et Bernard. Et puis, la Jamaïque tient le résultat. Il emporte 3-2 à Toronto devant une foule, quand même une bonne foule, étant donné les circonstances de la température. Là, la foule était raisonnablement bonne. Avec 17 000 en 17 et 18 000 spectateurs, là, j'ai pas le chiffre exact. Il y avait une section du BMO Field qui était fermée. Et donc, d'ailleurs, le BMO Field, là, quand on est là-dedans, là, c'est vraiment plus gros là, que le CF, le stade Saputo côté CF Montréal. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont évidemment un match ou plus qu'un match de Coupe du Monde garanti côté Toronto pour la Coupe du Monde 2026. C'est dommage encore une fois là, pour Montréal de ne pas avoir de match de Coupe du Monde, mais ça c'est un autre débat. On en parlera dans une prochaine chicane. Par contre, galerie de presse côté Toronto, comme le stade est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus haut de l'action et comme il faisait froid, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et j'ai trouvé que la proximité par rapport au terrain côté Stade Saputo pour la galerie de presse en tant que média était un peu... c'était un peu mieux, même si à Toronto, là, on a été très bien traité également. On a eu droit à bon, des drinks là, non alcoolisés, bien sûr, là, c'est-à-dire de l'eau et de la liqueur, etc., des jus. Et il y avait comme repas des pâtes avec des meatballs, là, comment on dit ça, des meatballs en français, là, des boules de viande ou je sais pas comment, j'ai oublié le mot. Donc, il y avait ça, on a été très bien traité avec une petite accréditation pour CFAC et CSM. Donc, un honneur absolu de pouvoir aller à Toronto. D'ailleurs, en train avec Via Rail, première expérience, c'était une belle expérience avec Via Rail, là. C'était bon. Le train, ça passe vite, mais c'est lent. C'est dur à expliquer, en fait, mais surtout le soir quand tu ne vois pas le paysage. Donc voilà, ça c'est le compte-rendu. Et donc maintenant, pour le Canada, eh bien malheureusement, ils sont éliminés de la CONCACAF Nations League, ce qui veut dire que eh bien il n'y aura pas de trophée pour l'équipe canadienne, ce qui est quand même très décevant parce qu'on aurait pu quand même aspirer à gagner ce trophée-là, sachant que l'équipe canadienne a quand même connu une des qualifications pour la Coupe du Monde quand même très respectable. La Coupe du Monde, elle n'a pas été dégueulasse en tant que telle. On a beaucoup de joueurs avec un talent énorme. Mais malheureusement, il n'y aura pas de titre de trophée pour le Canada. Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu un gros trophée. Puis ça aurait pu être une opportunité pour nous d'en avoir un en tant que Canadien. Et quand on regarde là, d'ailleurs les derniers résultats de l'équipe nationale canadienne, là, donc il y a eu la défaite en Jamaïque en novembre, là, le 18 novembre. Avant ça, le match amical contre le Japon, on a perdu 4-1. La Gold Cup, on a perdu 2-0 contre... on a perdu au tir au but contre les États-Unis. On a fait 2-2 contre la Guadeloupe, 0-0 contre le Guatemala et on a battu 4-2 Cuba. Ces trois matchs-là, là, ce ne sont pas des bons résultats. Et avant ça, dans la CONCACAF Nations League, on a perdu contre les États-Unis 2-0. Et donc, si on regarde ça, là, à nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à nos 8 derniers matchs, on a seulement gagné deux fois. Une fois contre Cuba, qui est un adversaire quand même à la portée du Canada, mais on n'a pas été capable de battre la Guadeloupe, on n'a pas été capable de battre le Guatemala. On s'est fait surclasser par le Japon 4-1. Donc, c'était vraiment là, une raclée. C'est sûr que ça se passait du côté du Japon. Donc, on a vraiment perdu ce match-là. D'ailleurs, pour ce match-là, si je ne me trompe pas, Samuel Piette, je ne sais pas s'il était rentré en jeu. Mathieu Chouanard était là. Oui, Samuel Piette avait joué ce match-là. Donc, ça lui a donné quelques petites minutes. Mais la bonne nouvelle, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, c'est que comme la Copa América va avoir plus d'équipes qu'à l'habitude, en fait, non, elle va avoir 16 équipes, c'est comme d'habitude, mais cette année, la Copa América donne 6 places à la zone de la CONCACAF pour participer au tournoi. Donc, on le sait, c'est tout le temps les 10 équipes là, de la CONMEBOL qui vont participer à ça, à la Copa América qui va se passer du côté des États-Unis, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela. Et les 6 autres équipes, eh bien, ce seront des équipes nord-américaines. Et donc, ça va faire du bien aussi. Comme la Copa América va se passer du côté des États-Unis, ça va probablement attirer beaucoup de gens là, pour aller voir ces matchs-là. Donc, on sait déjà à l'heure actuelle que pour la Copa América 2024, là, que ça se passe 20 juin au 14 juillet, là, c'est l'été prochain. Là. Il va y avoir Atlanta qui va avoir des matchs et Miami qui va avoir des matchs. Les autres villes ne sont pas encore confirmées, mais il va en avoir d'autres. Eh bien, les 4 équipes qualifiées pour la Copa América 2024 de la CONCACAF. Chers auditeurs, chers auditrices, on va vous les nommer parce qu'il y en a quatre qui ont fait le boulot lors des semaines dernières. Eh bien, on va vous les nommer. Ceux qui ont fait le boulot, eh bien, le Panama a déclassé le Costa Rica 6-1 au global. Les États-Unis ont battu le Trinidad et Tobago 4-2. Et le Honduras a perdu contre le Mexique au tir au but après avoir mené 2-0 là, chez eux au Honduras. Ils se sont fait rattraper côté Mexique au stade Azteca au pénalty. 4-2 au tir au but pour le Mexique. Et bien sûr, la Jamaïque a surclassé le Canada. Ce qui fait en sorte que les équipes qualifiées là, pour la Copa América officiellement, bien, Panama, États-Unis, Jamaïque, Mexique vont avoir leur biais pour cette compétition très importante et très prestigieuse dans le monde du soccer masculin. Et pour les quatre autres équipes là, qui ont perdu ces matchs-là, eh bien, il va y avoir des matchs de barrage. C'est seulement un match, ça va se passer le 23 mars 2024, côté Toyota Stadium à Frisco, au Texas. Et le Canada va jouer contre Trinité et Tobago. Et puis, si le Canada l'emporte contre Trinité et Tobago, ils seront qualifiés pour la Copa América. Et s'ils ne le font pas, ça va être vraiment une très grosse déception. Et si vous me demandez mon avis, ce sera une catastrophe pour l'équipe nationale canadienne. Et l'autre match, bien, ça sera Costa Rica contre le Honduras. Donc, il reste encore deux biais pour pouvoir se qualifier pour la Copa América. Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que Mauro Biello sera là à la Copa América 2024? Est-ce qu'il va avoir la confiance, évidemment, s'il se qualifie? Et est-ce qu'il sera là pour le match contre Trinité et Tobago? On l'a senti en conférence de presse, il n'était pas satisfait. Il sait bien entendu que c'est un très mauvais résultat pour son CV, parce que surtout, ils avaient fait le plus difficile, c'est-à-dire gagner en Jamaïque. Et là, tu mènes 3-1 au global. À la fin de la première mi-temps, il reste une mi-temps à jouer, puis tu concèdes là 3 buts à la Jamaïque chez toi à Toronto. Donc, c'était un très mauvais résultat. On va voir s'il sera disponible et s'il sera là pour ce match contre Trinité et Tobago. J'espère qu'ils le seront. Il y avait aussi des rumeurs qu'il l'envoyait côté CF Montréal, parce qu'on sait que le CF Montréal n'a pas d'entraîneur à l'heure actuelle, puisque Hernan Losada s'est fait renvoyer. Et donc, on va voir là qu'est-ce qui va se passer côté Mauro Biello. Ça va être intéressant à voir parce que c'est quand même un entraîneur qui a prouvé des choses. Il a d'ailleurs pas été très loin d'amener l'Impact de Montréal à l'époque en finale de MLS. Donc, c'est quelqu'un qui peut prouver des choses et on va voir qu'est-ce qu'il va faire côté Canada et si l'équipe nationale canadienne va le prolonger et va le garder pour quelques années. Maintenant, on va y aller en entrevue d'après-match avec les deux entraîneurs, entrevue là, que j'ai pu faire après le match dans la mêlée de presse. On va donc commencer avec Mauro Biello.
Hi coach, thank you for your time. Do you feel that you deserve better maybe tonight than the results you got?
Well, look, the first half was a good half. We were in the dressing room and I thought in different moments we looked really good. We created opportunities. They didn't really have much in the first half. So when you look at that part of the game and you say, okay, we were in control. We got the goal that put us ahead. And then the second half, you can't make mistakes. We made mistakes. We gave them the ball. We gave them the first goal. And all of a sudden, momentum starts to turn, right? And then they start to grow. And at the end of the day, we put ourselves in trouble. We came back into the game. We made changes. And then we gave up a penalty. And there's the game. So it's disappointing. They're disappointed in that room, that's for sure. So that's where we're at right now.
Donc c'était l'entraîneur de l'équipe nationale canadienne, évidemment c'était en anglais, qui disait qu'ils avaient très bien joué en première mi-temps et que la Jamaïque n'avait pas eu beaucoup d'opportunités, ce qui est quand même vrai. Et il l'a mentionné plusieurs fois sans conférence de presse, là, pas juste avec moi. Il a mentionné également que l'erreur de Stephen Eustachio, sans bien sûr nommer le joueur spécifiquement, là, il ne voulait pas le le bousiller devant tout le monde. Mais par contre, il a mentionné qu'on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Là. C'est-à-dire qu'Ostakio, au lieu de passer, il a essayé de garder le ballon, d'éliminer des joueurs dans sa propre moitié de terrain. Et donc, c'est ça qui a causé le premier but. Si cette erreur-là n'arrive pas, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un autre match pour le Canada et qu'il est en demi-finale de la CONCACAF Nations League. Maintenant, on va y aller avec l'entraîneur-chef de l'équipe nationale de Jamaïque. Il s'appelle Heimir Hallgrímsson. C'est un Islandais.
Hey coach, congratulations on the win. What does it mean for you, this win tonight here at BMO Field?
Well, it doesn't mean as much to me as to the players and to the Federation of Football in Jamaica. It of course changes a lot of things for 2024 for Jamaica, playing semi-final in the Nations League, playing Copa America finals is of course huge, not only for building of this team, but also financially for the Federation. So of course, we are all delighted, and especially delighted for the players because they have been fantastic.
Thank you.
Coach, what were the instructions at halftime?
Voilà donc les mots de l'entraîneur là, côté équipe nationale de Jamaïque, Hallgrímsson, qui a d'ailleurs entraîné seulement en Islande et côté El Arabi, là, ça c'est un club du Moyen-Orient au Qatar. Puis il a bien sûr coaché aussi l'équipe nationale d'Islande, là, celle où est-ce que, qui avait fait un très bel Euro, notamment qui avait éliminé, je crois, l'équipe nationale d'Angleterre. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait du très bon boulot. Et qu'est-ce qu'il a mentionné? Mais ma question, c'était tout simplement, qu'est-ce que cette victoire ici à Toronto signifie, surtout cette qualification pour les demi-finales de la CONCACAF Nations League? Il a dit que pour lui, personnellement, ça signifie quelque chose, mais pas autant que pour le peuple jamaïcain, les joueurs et la fédération. Et il a mentionné, j'ai trouvé ça intéressant, il a mentionné que cette victoire-là, là, qui donne une qualification pour la Copa América et pour les demi-finales de la CONCACAF Nations League, eh bien, ça donne également une enveloppe d'argent côté Jamaïque parce que s'ils se qualifient pour un tournoi, donc les équipes qui se qualifient généralement pour des tournois ont un certain montant qui est donné à la fédération. Et avec ce montant-là, ça peut toujours aider, par exemple, à construire des centres d'entraînement, avoir plus de budget pour avoir peut-être du staff de meilleure qualité, etc., etc., et ainsi de suite. Et donc, c'est un très grand jour pour l'équipe nationale de Jamaïque. Et moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me réponde ça. Je pensais qu'il allait me donner une réponse assez commune en voulant dire que oui, c'est sûr que ça fait plaisir de se qualifier pour un tournoi, mais non. Pour le peuple jamaïcain, pour les joueurs, puis il faut le rappeler, là, la Copa América, ça va être regardé partout dans le monde. La CONCACAF Nations League, oui, c'est une place en demi-finale, peut-être aller chercher un trophée, d'accord, mais ce n'est pas un tournoi qui est regardé par la majorité des gens. Mais la Copa América, c'est le tournoi là, des clubs d'Amérique du Sud. Donc l'Argentine est là, championne du monde, donc ça va être regardé partout. Et pour la Jamaïque, eh bien, ça va donner une vitrine, notamment aussi pour certains clubs, peut-être, d'acheter des joueurs jamaïcains qui jouent dans des clubs un peu moins connus, comme par exemple Shamar Nicholson. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette couverture médiatique là, côté match Canada contre la Jamaïque du côté de Toronto. La Jamaïque qui l'a emporté 3-2 au BMO Field à Toronto et donc qui est qualifié pour la Copa América et qui va aller en demi-finale de la CONCACAF Nations League. Et pour le Canada, pour se qualifier pour la Copa América, eh bien, ils devront battre Trinité et Tobago le 23 mars 2024. Sinon, pas de Copa América. On s'en va en musique et on revient après ceci. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ. CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Et CFAQ, 88,3, la radio de l'Université de Sherbrooke. 88,3 FM, bien entendu. Deux émissions universitaires en action à CSM et Soccer Sport côté CFAQ avec Wissem Bensta, votre animateur. Donc, on vient d'entendre quatre chansons, là, back à back. Les dernières, c'était Les Cowboys Fringants, Le Plombier et Un Petit Tour, évidemment, pour rendre hommage là à Carl Tremblay qui est bien sûr décédé. Et également avant ça, on a eu Safia Nolin et Sida, ça c'est une nouveauté francophone, et Ailleurs de Par Hasard feat Salimo, donc deux nouveautés francophones pour vous sur les ondes de CSM et de CFAQ. Maintenant, on va y aller avec un peu de hockey universitaire féminin. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de ça. de ce sport-là qui est quand même très populaire ici là avec nos universités québécoises. Et il faut le mentionner, nos universités québécoises, non seulement québécoises, mais également ontariennes, parce qu'il y a deux équipes dans la ligue qui fait partie là, du RSEQ, qui sont les GGs de l'Université d'Ottawa et les Ravens de Carleton, qui sont deux équipes de la province de l'Ontario qui jouent avec nous ici au Québec. Il faut comprendre là, qu'il y a seulement quatre équipes à part ça au Québec. Donc, pour faire une ligue à quatre équipes, c'est un peu difficile. Donc, les six équipes qui font partie de la ligue du RSEQ, on a les Stingers de Concordia University, on a les Carabins de l'Université de Montréal, on a les Gators de Bishop's University, les GGs de University of Ottawa, les Ravens de Carleton University et les Martlets de l'Université McGill. Et à l'heure actuelle, au classement général, sans compter là, les matchs d'hier et d'avant-hier, eh bien, les Stingers de Concordia sont premières avec 10 matchs joués, 10 victoires, et dont 2 en prolongation. Les deuxièmes, c'est les Carabins Université de Montréal avec 10 matchs joués, 6 victoires, 2 défaites et 2 défaites en prolongation pour 14 points. Troisième, les Gators de Bishop's University, 10 matchs joués, 5 victoires, 1 victoire en prolongation et 5 défaites. Ottawa, les GGs, 9 matchs joués, 4 victoires, 4 défaites et 1 défaite en prolongation. Les Ravens de Carleton University, 9 matchs joués, 2 victoires contre 7 défaites. Et les derniers dans le fond de la cave, eh bien, c'est les Martlets de l'Université McGill avec 10 matchs joués, 2 victoires et 8 défaites. En termes des meilleurs de l'attaque la plus féroce de toute la ligue, eh bien, c'est Concordia avec 10 matchs joués, 42 buts marqués. Ils ont également la meilleure défense avec seulement 13 buts accordés en 10 matchs. La deuxième meilleure attaque, c'est Bishops avec 33. Les Carabins sont troisième avec 29. Et ensuite de ça, là, 21 buts marqués pour les GGs, 17 pour les Ravens de Carleton. Et les Martlets de McGill, c'est seulement 9 buts marqués. Et la pire défense de toute la ligue, eh bien, ça n'est pas McGill qui est dernier au classement, mais c'est Bishops. Bishops, il marque beaucoup de buts, mais il en accorde beaucoup. Là, il a accordé 35 buts. C'est la pire défense de toute la ligue. Mais malgré ça, ils sont troisième. Ils ont quand même gagné 5 matchs là, pour 5 défaites. Niveau maintenant dans les statistiques pour les joueurs, on va les nommer parce que si nous ne les nommons pas ici à CFAQ et CSM, qui va les nommer? Eh bien, Gabrielle Santerre de Bishops, c'est la meilleure pointeuse de la ligue avec 17 points. Également, on a Émilie Lucier de Concordia avec 15, Maude Pépin avec 14, Nelly Vigneault-Sergent avec 13, et ensuite de ça, là, c'est Émilie Lavoie avec 12 de Concordia, Jessimo Drapeau avec 11 de Concordia et Amy Fecto avec 9 points côté Concordia. Donc, on voit là, Bishops là, sur les 4 premières meilleures pointeuses de la ligue. Elles sont là, mais bien entendu, en défense, là, c'est pas ça. Au niveau des meilleures buteuses, donc celles qui ont marqué le plus de buts, eh bien, c'est Maude Pépin avec 9, Émilie Lucier de Concordia avec 8. Maude Pépin, c'est les Gators de Bishops, pardon. Jessie Maude Drapeau de Concordia avec 6. En termes de meilleures passeuses de la ligue, eh bien, c'est Gabrielle Santerre avec 12 des Bishops Gators et Nelly Vigneault-Sergent de la même équipe avec 8. Les plus et les moins, ça récompense, là, c'est une statistique qui parle non seulement du talent offensif, mais également du nombre de buts que tu accordes quand tu es sur la glace. Eh bien, c'est Émilie Lavoie de Concordia avec 12 et Émilie Lucier de Concordia avec plus 11. Donc, plus 11 et plus 12 pour les joueuses de Concordia. D'ailleurs, les 5 premières de la ligue, là, c'est tous Concordia, plus 12, plus 11, plus 10, plus 10 et plus 7. Chloé Gendreau, Alexandre Anne Boyer et Léonie Philbert également font partie de ces merveilleuses statistiques. Donc, les matchs à venir, là, on a quelques matchs intéressants dimanche. Donc, aujourd'hui, à 2h, eh bien, les Carabins de l'Université de Montréal se déplacent du côté du centre sportif Minto à Ottawa pour y affronter les GGs de l'Université d'Ottawa. Dans les prochaines semaines, là, ça va être un peu plus tranquille en termes d'entrevue puisque je serai en déplacement. En fait, je serai côté européen et africain en voyage. Donc, il y aura des émissions préenregistrées, certaines entrevues du passé et également certains contenus un peu nouveau là, pour vous présenter des sports et l'historique de certains sports universitaires. Mais à mon retour, côté février, il y aura beaucoup d'entrevues, là, puisqu'on va parler notamment à Shani Black, des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, champion québécois du RSEQ au soccer masculin. Donc, on s'en va faire une petite pause musicale et on revient après ceci. C'était l'excellente chanson nouveauté francophone de Fanny Bloom, Holistique, et également il y avait eu les chansons Sur la route et Nagori. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait à cette émission ici à CISM, à Universitaire en Action. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une très belle semaine et la semaine prochaine, on sera de retour pour vous parler notamment de la Coupe Vanier, hein, qui se joue d'ailleurs aujourd'hui, qui s'est joué hier, pardon. On va faire un petit recap de cette merveilleuse compétition, le plus haut niveau de football universitaire au Canada. Donc, bonne écoute sur les ondes de CSM et on se revoit la semaine prochaine. C'était Wissam Bensta au micro de CSM et de CFAC. Au revoir.